Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h46, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez Dominique Bussereau, président de l'Association des départements de France et du Conseil départemental de Charente-Maritime.
Oui, qui présidera d'ailleurs le congrès des départements de France à Rennes à partir de mercredi. On va en parler. Bonjour à vous, Dominique
Bussereau.
Bonjour
Elisabeth Martichoux.
Emmanuel Macron qui dit ce matin sur Europe 1, en substance, « Je suis impopulaire, c'est bon signe, ça prouve que je change la France en profondeur. » Vous y voyez de la cohérence ou de l'entêtement ?
Vous savez, l'impopularité, c'est bien quand ça correspond à des réformes. Donc jusqu'à présent, il y a eu une impopularité liée à des réformes, donc je ne jette pas la pierre au président. Ouais. Après, il y a des réformes quand elles sont mal comprises ou mal expliquées ou mal menées, qu'il faut savoir arrêter.
C'est,
l'histoire du carburant actuellement, c'est typiquement quelque chose de mal mené et qui malmène les Français. Tout ça est parti de la suppression de l'écotaxe, parce que l'écotaxe, au départ, c'était faire payer les poids lourds pour entretenir nos réseaux routiers, créer des lignes de métro, créer des lignes de bus, de TGV, des canaux, etc. Et comme il n'y avait plus d'argent, on a commencé à augmenter la taxe sur les carburants. C'est venu dans la loi de transition énergétique de 2015. Et aujourd'hui, l'État a poursuivi cette voie sans s'apercevoir qu'en même temps, les carburants augmentaient et que les Français ne pouvaient plus payer.
Ouais.
Donc aujourd'hui, beaucoup de Français sont dans la gêne à cause des carburants.
Alors on va y voir, parce qu'effectivement, il a augmenter encore la trajectoire, hein, et a été voté hier dans le budget, encore une augmentation sensible, et sur l'essence et sur le diesel. Mais pour revenir à cette idée de réformateur et de hausse des carburants qui provoque la colère des Français, est-ce qu'il y a chez lui un risque du syndrome Juppé, droit dans ses bottes ? Il dit « j'assume », il affirme ne rien céder, et puis à un moment, il faudra qu'il cède. Est-ce qu'il y a un risque ?
Vous savez, droit dans ses bottes, Juppé fait une grande réforme de la Sécu, l'annonce, va même plus loin que ce que lui proposait à l'époque sa majorité. Et puis à un moment, les Français qui soutenaient les mêmes, au bout de 15 jours de grève, 3 semaines, vous en souvenez, en 1995, disent « arrêtez tout ». Donc il faut que le président de la République et le gouvernement fassent attention à ce que l'impopularité, à un moment, ne bloque pas les réformes, parce qu'à ce moment-là, c'est toute leur démarche engagée depuis un an qui serait remise à plat.
Donc là, il y a un risque de tournant.
Il y a un risque politique.
De tournant et que finalement, après Macron, soit paralysé durablement.
Il y a un risque politique, d'autant plus qu'à la différence des gouvernements précédents, il n'y a pas une véritable majorité à l'Assemblée nationale. La majorité est assez gazeuse. Enfin, elle existe.
Bah, elle existe.
Arithmétiquement, elle existe.
Mais elle est
très peu présente sur le terrain. Elle n'est pas relayée par les élus locaux, elle n'est pas relayée par les maires, elle n'est pas relayée dans les départements, dans les régions. Et à l'Assemblée, on voit bien que c'est un groupe qui est un peu gazeux dans son action. C'est pas toujours très clair dans ses positions. Donc, un président qui a été élu un peu par surprise, et bravo à lui d'ailleurs, c'était l'affaire de l'année, qui se retrouve sans véritable majorité forte et politiquement ancrée dans le pays, ça peut être compliqué si les réformes ne sont pas bien expliquées.
Mais ôtez-moi d'un doute, vous en avez parlé il y a quelques instants, vous étiez furieux quand Ségolène Royal avait reculé sur l'écotaxe à cause des bonnets rouges. Et là, vous demandez au gouvernement de reculer sur la taxe carbone à cause des gilets jaunes, si on peut dire. Il n'y a pas comme une petite contradiction.
D'abord, Ségolène Royal et les bonnets rouges portent la responsabilité des gilets jaunes. Parce que si on n'avait pas supprimé l'écotaxe, il n'y aurait pas besoin de ces taxes actuelles qu'on rajoute.
D'accord.
Donc
mais
la suppression des
écotaxes, on en est là.
La suppression des écotaxes, mais il faut le rappeler aux Français, comme c'est un scandale d'État.
Donc quand elle
c'est non seulement culotté, mais c'est ridicule. Simplement un chiffre, en Allemagne, ça rapporte aujourd'hui l'équivalent allemand 4,5 milliards d'euros. Or, ce dont a besoin Mme Borne pour nos infrastructures, pour nos ponts, je pense à l'après-gêne, c'est 1,5 milliard d'euros. Donc vous voyez bien que le problème, il vient de la suppression des écotaxes. Et après, on a commencé par compenser sur les carburants, sur les particuliers, et là, on arrive à un moment où le prix du baril augmente, où c'est plus supportable un couple en ruralité, chez moi, en Charente-Maritime, qui a deux vieilles bagnoles diesel, parce qu'ils travaillent chacun, il faut emmener les enfants à l'école, il faut aller au collège, il faut aller à la pharmacie, etc. etc. Ben, ce sont les plus touchés. Donc les plus touchés sont les plus pauvres, qui ont des voitures diesel anciennes et qui n'iront pas forcément les changer malgré les primes de reconversion, c'est là où je pense que le gouvernement aurait intérêt, aurait raison de baisser ses propres taxes et de stopper un peu le dispositif. Bien évidemment.
Mais ça, il revient sur un discours qui est très rationnel, qui effectivement ne convainc pas, mais où il y a une cohérence, c'est la lutte contre le réchauffement climatique.
Je donne une solution, soit restaurer l'écotaxe, mais ça il faut avoir du courage, mais
donc
tout existe.
Vous n'y croyez pas ?
Tout existe, j'ai dit qu'il faut avoir du courage pour le faire, ou alors, comme Mme Borne, semble-t-il, la ministre des Transports y réfléchit, créer sur le modèle suisse une vignette sur les poids lourds, on peut très vite arriver à un rapport financier de 1,5 milliard à 2 milliards d'euros qui rendrait inopérante l'augmentation de la taxe actuelle.
Qui pèserait sur les transporteurs routiers
qui pèserait sur tous les transporteurs qui traversent notre pays. On ne peut pas différencier les Espagnols, les Portugais des Français.
Déjà, vous savez, ils contournent le plus possible la France parce qu'ils trouvent
ce qu'ils font, c'est qu'ils ne passent pas sur les autoroutes à péage, par exemple. Regarde en Alsace, il y a d'un côté l'autoroute allemande soumise à la vignette, les camions allemands, ils viennent sur l'autoroute française qui est gratuite. Donc, si on avait un système cohérent de taxation du transport routier, on n'aurait pas besoin de taxer les automobilistes comme on le fait actuellement.
Donc, vous suggérez quand même au gouvernement de reculer. Il a annoncé d'ailleurs, hier, Emmanuel Macron, il a esquissé dans les dernières nouvelles d'Alsace l'idée de défiscaliser l'aide que, par exemple, propose Xavier Bertrand
dans
les Hauts-de-France.
Vous imaginez, les Hauts-de-France, Xavier Bertrand propose une aide qui est déjà spécifique à certaines catégories de personnes, tant de kilomètres, etc. Et on viendrait en plus inventer à Bercy un système pour défiscaliser ça. Je crois que le coût de fonctionnement de la mesure...
Ça coûterait plus cher que ça rapporte,
ça c'est clair. J'ai été ministre du budget, je sais à peu près comment ça fonctionne. Je peux dire que ça coûterait beaucoup plus cher que ce que ça rapportera.
Donc ça, il faut qu'il l'abandonne.
Il faut simplement se dire, la transition écologique, c'est un bon objectif. Je partage cet objectif de transition écologique. Mais la transition écologique, ça ne passe pas par taper sur les Français les plus pauvres ou les plus en difficulté. Celui qui a sa voiture de fonction avec un chauffeur ou une BM, il n'a pas de problème. Celui qui a sa vieille 205 diesel, il a un vrai problème.
Il y a quand même un manque de sens politique.
C'est pas très habile, et pour ça que je pense que les choses peuvent évoluer, parce que le président de la République nous a plutôt donné jusqu'à présent des exemples d'habileté que des exemples inverses.
Il doit changer d'avis, bloquer la France, soutenir le blocage
ça,
du 17 novembre.
C'est une très mauvaise idée.
C'est un devoir, nous disait Nicolas Dupont-Aignan hier.
Écoutez, Dupont-Aignan, le Rassemblement National, et puis toutes celles et ceux qui, sans le dire, provoquent ces rassemblements, gêner les Français, bloquer les Français, j'ai toujours été contre. Je suis contre quand il s'agit de bloquer les Français pour aller au travail, par les grèves de la SNCF, par exemple, du printemps, ou les blocages, comme ce matin encore, en Île-de-France, dans la partie est de l'Île-de-France. Mais le faire en plus pendant le week-end, quand les familles se retrouvent, doivent faire un certain nombre de choses, c'est vraiment de la petite politique.
Et c'est de la démagogie
je trouve ça,
de la part de ceux qui soutiennent.
C'est minable. Bloquer la France, c'est minable.
D'accord, donc ceux des partis politiques comme Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen qui le font, c'est minable.
Oui, c'est un peu l'avis que je porte sur leur action politique en règle générale.
C'est dit, Dominique Bussereau, le président met en scène en ce moment même, là, dans le cadre de son itinérance mémorielle, je suis désolée, je n'ai pas trouvé d'autre terme que celui que nous a posé l'Élysée.
C'est très chic, itinérance mémorielle.
Ouais. Nous met en scène donc sa réconciliation avec les élus locaux. Il les chouchoute, nous disait Vincent Derosier tout à l'heure à 7h. C'est un virage à 180 degrés.
C'est un virage à 180 degrés, c'est un bon virage. Un gouvernement et un président de la République ne peuvent pas ne pas parler avec les élus. Tous les projets sur le terrain sont cofinancés, co-organisés par les collectivités, par l'État. Donc ce qui s'est passé pendant 18 mois, cette espèce de démolition du lien entre l'État, la République et les élus, était vraiment très mauvais. Depuis le mois de septembre, le langage a changé, le président de la République nous a reçus à plusieurs reprises, on a parlé de tout ça, il a créé un ministère pour s'occuper de tout ça.
L'idée d'un ministère des collectivités locales, et que vous avez, ça c'est Pauline de Saint-Rémy qui nous l'avait dit sur RTL, vous avez failli être nommé.
J'ai dit au président de la République, au Premier ministre, que dans un gouvernement de la Ve République, il y avait toujours un ministre qui s'occupait des collectivités. Le fait qu'il n'y en ait pas expliqué partiellement, mais expliqué quand même, la mauvaise relation qu'il avait avec les élus. Après, il y a des tas de gens qui...
Il y avait des tas de gens qui étaient
capables de le faire, j'aurais pu le faire, ce n'est pas moi qui le fais, mais je fais confiance à celles et ceux qui vont mener cette tâche. En tout cas, nous attendons à Rennes, et vous savez, Elisabeth Martichoux, que les congrès de Rennes, c'est toujours compliqué. Nous attendons des propositions concrètes de Jacqueline Gourault et de Sébastien Lecornu, les deux ministres en charge.
La proposition que vous attendez.
Deux propositions que nous attendons. Un, le RSA croît, malheureusement, dans beaucoup de régions de France. Le vieillissement croît, nous versons l'APA aux personnes âgées, et l'État ne nous rembourse que 50% de ce qu'il nous doit là-dessus. Donc nous attendons de l'État un fonds de concours, au moins aux départements les plus en difficulté, sur ce sujet. Et deuxièmement, depuis le mois d'août, les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire ces garçons qui arrivent d'Afrique subsaharienne, qui rentrent dans notre pays, sont de plus en plus nombreux. Le nombre a augmenté de 50% depuis le début du mois d'août. Nous demandons à l'État une meilleure prise en charge dans ce que nous payons payons pour eux, nous payons à peu près 85% de ce qu'ils coûtent à la nation, nous demandons à l'État un effort supplémentaire.
Un effort pour les dépenses sociales et pour les mineurs non accompagnés. Oui. Vous attendez donc de Jacqueline Gourault qui viendra sans doute, en tout cas vous déciderez demain, au vu des annonces qui pourraient être faites.
Si elle a des choses dans sa besace, elle sera la bienvenue.
Donc, vous demandez, je crois, une somme à peu près de 250 millions.
Oui, pour le fonds d'urgence.
Et en contrepartie, vous êtes prêt à créer un fonds qui permettrait aux départements les plus riches d'aider les plus pauvres. Quel est le département le plus riche en France ?
C'est très difficile à dire parce que vous pouvez être riche et avoir beaucoup de droits de mutation. Vous pouvez être riche aussi parce que vous avez des ressources foncières.
Les grands
départements qui peuvent aider les autres, ce sont les Hauts-de-Seine, ce sont les Yvelines, ce sont les Alpes-Maritimes. Mais même un département comme le mien, qui n'est pas un département les plus riches, serait prêt à participer à ce type de fonds. Il faut qu'on nous donne le moyen fiscal de le faire. Il y a besoin d'un zakouski fiscal que le gouvernement ne nous a pas encore donné ce matin, un peu avant 8h.
Et que vous attendez d'ici à demain soir.
Toute dernière question,
Emmanuel Macron, il y a quelques instants, compare Orban, le Premier ministre hongrois, à Hitler and co.
C'est exagéré. Moi, j'ai quitté les Républicains parce que le compagnonnage avec Orban, entre autres, ne me plaisait pas. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et je trouve que l'interview de Nicolas Sarkozy dans Le Point sur Orban ou sur le nouveau président brésilien était bien équilibrée.
Dominique Bussereau, qui n'apprécie pas cette comparaison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et nous, dans un instant, nous retrouvons Cyprien Sini.